Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Nous allons ce soir continuer notre étude et notre exhortation, notre enseignement sur l'adversité. C'est un sujet qui doit être compris car c'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas compris l'adversité. Plusieurs dans la prière tout à l'heure ont demandé à Dieu d'avoir un comportement qui fasse en sorte que l'on soit agréable à Dieu. C'est important ça de... Regardez par exemple dans Jérémie. C'est un verset, vous allez bien comprendre à la fin de la prédication pourquoi j'ai pris ce verset, dans Jérémie, au chapitre 9, ce n'est pas le verset clé de la prédication, mais c'est pour vous expliquer combien c'est extrêmement lié. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Il y a quelqu'un qui veut être agréable à Dieu? Parce que vous savez, c'est une chose d'aller à l'église, ça n'est une autre d'être agréable au Seigneur. Dans Jérémie, au chapitre 9 et au verset 23, je vous encourage à prendre tous les textes. Il y aura une dizaine de textes. Et vous, si vous les méditez tous ensemble, vous apprendrez des choses qui vous permettront d'être forts. Et quand vous chanterez le dimanche matin, « Nous sommes plus que vainqueurs », ça ne sera pas de l'hypocrisie, ça sera une expérience. Donc prenez, s'il vous plaît, ce n'est pas une obligation, mais on ne peut pas retenir tous les textes, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible de retenir tous les textes qui nous ont été lus? Non. Le mieux, c'est de les noter dans un carnet et d'y revenir régulièrement. Moi, ça m'arrive de revenir sur des prédications que j'ai entendues il y a 20, 30 ou plus, et ça me fait beaucoup de bien. Jérémie, chapitre 10, chapitre 9, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Voilà une des informations qui nous permet de savoir à que Dieu prend plaisir. Quand quelqu'un sur la terre est capable de dire « oui », Dieu exerce le droit et la justice sur la terre. Alors vous allez me dire, oula, mais Monsieur Beau, c'est un sujet un peu compliqué ça. La justice, l'injustice. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de justice sur la terre? Il n'y a pas de justice. Et l'injustice, est-ce qu'il y en a de l'injustice? Et pourtant, nous chantons en boucle que Dieu est tout puissant. Donc si Dieu est tout puissant, il a le pouvoir de mettre fin à l'injustice. Oui? D'accord. Si Dieu est bon, il peut le faire, il veut le faire. Parce que bon, que quelqu'un soit bon, ce n'est pas parce que quelqu'un est bon qu'il est tout puissant. Vous êtes d'accord? Mais Dieu, il est bon et il est tout puissant. Et nous vivons dans un monde d'injustice. Oui ou non? On pourrait faire la liste et chacun pourrait trouver un exemple. Tiens, cette femme qui a été abandonnée, cette femme qui est battue par son mari. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont... Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine à la télévision? On a entendu cette femme qui pendant 25 ans ou 40 ans a été frappée, violée par son mari, etc. Est-ce que c'est juste ça? En plus, elle a été en prison. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait multiplier les exemples. On en a tous une foule de questions. Alors, on ne va pas passer la soirée à ça, mais quand même, ça arrive qu'un chrétien, Monsieur Gros, m'a mis dehors alors que je suis droit et on a gardé le gars qui était... tordu, et moi qui suis juste, on m'a licencié. C'est pas des injustices, ça? En fait, la liste est infinie. Alors, pourtant, Dieu permet que l'injustice puisse nous toucher. Est-ce que quelqu'un a déjà été frappé par l'injustice, subi une injustice? Bon. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre... Parce que bon, nous, je ne sais pas l'image que vous vous faites de la situation que le monde vivait, que Jérusalem, qu'Israël vivait lorsque Jésus est arrivé. Jésus est venu sur la terre au moment où Israël était occupé par Rome. C'est comme quand la France était occupée par les nazis en 1945. Vous vous rappelez? Enfin, vous rappelez? Vous avez vu, vous avez été, moi j'étais pas né, mais enfin, on a été enseigné là-dessus. Vous l'avez vu? Qui était là? Il n'y a pas grand monde, hein? Mais il y en a qui l'ont vu. Écoutez bien. Vous avez vu les émissions ou les films qui nous retracent comment les Français étaient lorsqu'ils étaient sous occupation allemande. C'est affreux, cette chose. Ce qui s'est passé, moi j'ai lu sur des films où des anciens m'en ont raconté, c'est une oppression, c'est terrible d'être là, de payer des impôts pour armer l'étranger qui nous oppresse. Quand vous regardez l'Israël, bon, on voit nous l'histoire de Jésus qui est arrivé, etc. Mais quand vous voyez même comment les pharisiens étaient sous cette pression et défendaient plus Rome par peur de Rome, que la parole de Dieu. Comment on voyait comment ils étaient oppressés par les impôts. D'ailleurs, vous avez vu, est-ce qu'il faut payer l'impôt, vous vous rappelez, pour coincer Jésus? C'est terrible. Et quand Jésus est arrivé, beaucoup étaient contents parce qu'ils pensaient que Jésus allait régler tous ces problèmes politiques, géopolitiques, financiers, etc. Et religieux, peut-être un peu religieux quand même, c'était bien. Mais le jour des rameaux, ce qu'on appelle le jour des rameaux, vous vous rappelez, quand Jésus est entré dans Jérusalem, tout le monde l'acclamait, vous vous rappelez? Tout le monde l'acclamait, pourquoi? Parce qu'il pensait que Jésus venait comme le... Comment? Voilà, le roi, le libérateur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont acclamé, quelques jours après, ils chantaient « Crucifie-le ». Ils ne voulaient pas un sauveur. Nous, on croit qu'ils voulaient un politicien qui mette dehors Rome. Vous me croyez? Et c'est dans ce contexte que Jésus est arrivé. Et c'est dans ce contexte qu'il a enseigné une parabole qu'on va lire ce soir, qui est le centre de notre prédication, dans l'évangile de Luc. C'est là que commence vraiment notre étude, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a un contexte, une injustice terrible. Israël était dans une injustice, et c'est vrai qu'il y a des situations injustes au niveau national, au niveau individuel, etc. Donc, Jésus arrive et il donne une parabole. Ce sont des choses importantes, tout ce qui est écrit est important, tout. Pas un seul trait de la loi ne passera, tout. Luc chapitre 18, nous des fois on parle pour rien dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les hommes ou les femmes peuvent parler pour rien dire? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive qu'on parle pour rien dire? Allez, soyons honnêtes. Ben oui, ça arrive. Des fois, on dit des trucs, et puis surtout, des fois, on regrette de les avoir dit. Non? Ça vous est jamais arrivé de dire, ben si j'avais su, je me serais tu? Mais ça ne peut pas arriver dans la bouche de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et c'est important. Jamais Dieu a dit, oh, j'aurais pas dû le dire. Nous, oui, on a dit mille fois, j'aurais jamais dû. Donc, c'est important. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, voilà, ça c'est les deux mots qu'on n'aime pas trop, mais enfin, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. » Donc nous avons un contexte, un juge méchant qui se moque de tout, et une veuve qui, elle, est pauvre et qui a peu de droits. Est-ce qu'elle a besoin de, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de justice. Écoutez bien, cette parabole n'est pas que sur l'encouragement à la prière. Et son seul espoir, écoutez bien, le seul espoir de cette femme, c'est un juge inique, mauvais. Elle va le voir, vous avez vu, elle persévère, pendant longtemps il refusa. Ça nous rappelle que des fois pendant longtemps ça peut être pareil. C'est écrit plusieurs fois, ça, pendant longtemps dans la Bible. Eh ouais, nous, on aimerait que ça soit de suite. Bon, à force, il cède et elle obtient gain de cause parce qu'elle avait la loi pour elle. Alors, c'est vrai que le premier enseignement qui est souvent développé suite à cette parabole, c'est qu'il faut persévérer dans la prière. C'est écrit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier 24 heures sur 24. Toujours prier, ça veut dire que je n'arrêterai pas de prier. Je veux que ma fille soit sauvée. S'il faut prier jusqu'à mon dernier souffle, je prierai jusqu'à mon dernier souffle. C'est ça, toujours prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être 24 heures sur 24 à genoux. Donc, il faut persévérer dans la prière. Mais cette parabole ne nous enseigne pas que ça. Il y a un deuxième enseignement, c'est qu'il y a un parallèle entre un juge inique et un Dieu juste. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est un des moyens pour ne pas abandonner la foi. Si un juge méchant, injuste, peut se laisser persuader de faire justice à une veuve qui ne représente rien pour lui, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, nous pouvons faire confiance à notre Dieu qui est juste. Vous croyez que Dieu est juste? Bien sûr qu'on peut, on ne peut pas avoir confiance en la justice de notre pays. Vous avez vu comment ça marche? Bon, on va pas faire le procès de la justice. On va comprendre que si Jésus met en opposition un juge mauvais et qu'il met en opposition justement le Dieu juste qui sera le juste juge, il est écrit, il fera justice à ses élus. Vous l'avez avec moi ? On y revient, Luc 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui persévèrent dans la prière ?» Et parce que on ne comprend pas bien, il le répète au verset 8, parce que des fois on ne comprend pas bien. Vous savez que des fois il faut répéter les choses ? Il le répète au verset 8, « Je vous le dis, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur Jésus. » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. L'enseignement essentiel de cette parabole, en vérité, ce n'est pas que la persévérance dans la prière. Parce que si vous ne croyez pas dans la justice divine, vous ne persévérerez pas, vous ne persévérerez pas dans la prière. Donc, Dieu fera justice à ses élus. Il n'est pas dit aux chrétiens. Alors vous allez me dire, oulala, où tu vas ? Bon, c'est qui les élus ? Parce que quand même, il faut être sérieux, et tous les mots sont importants. Jésus dit, Dieu fera justice à ses élus. Ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit ? Il y a beaucoup d'appelés. Mais peut-être, parce qu'il y a des gens qui se taxent d'être chrétiens, ils ne le sont pas. Ils ont pris le baptême, ils connaissent la Bible, ils peuvent même prêcher bien. Ce n'est pas pour ça qu'on est chrétien. On est chrétien quand on est né de nouveau et que ce que Dieu a dit, c'est sérieux. Vous le croyez tout ce que Dieu a dit ? Vous le croyez vraiment que tout ce qui est écrit c'est important ? Que cette parabole c'est important pour nous ? Ou Jésus il a fait une parabole pour faire l'intéressant ? Ou est-ce que c'est important pour nous ? C'est important pour nous mes frères et sœurs. Donc Dieu fera justice à ses élus. Les élus ce sont vraiment ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. C'est ça un élu. J'ai foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Dieu l'a dit, c'est sérieux. Moi j'entends ça, oui mais Dieu a dit ça, mais c'est écrit qu'une fois. Vous savez quand il est dit que celui qui lit fasse attention ? Quelqu'un un jour a répondu, oui, mais c'est écrit qu'une fois. Oui, ça suffit. Parce que Dieu répète des fois, comme là, on vient de le voir. Il répète parce qu'on a du mal à comprendre. Comme on dit, des fois, on a du retard à l'allumage. C'est pas vrai, des fois, qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que vous aimez que Dieu répète les choses ? Oui ou non ? Ben oui, on peut le bénir. Donc, c'est vrai qu'on peut... Beaucoup de gens se posent la question... Est-ce qu'un jour, il y aura la justice sur la terre ? On parlait de la Deuxième Guerre. Je me demande ce que les Français devaient penser quand ils étaient au courant de ce qui se passait à Auschwitz, etc. Vous avez vu, quand même, c'est terrible ce qui s'est passé. Vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de Juifs dans les camps de concentration qui devaient dire « mais ça serait peut-être temps que tu exerces la justice sur la terre ». Oui ou non ? Oui, parce que des fois, on se plaint pour des petits bobos, mais là, on n'est pas dans les petits bobos. Alors, la question, quand est-ce que Dieu exercera la justice ? Quand il le fera ? Quand il le fera ? Vous êtes d'accord ? Quand Dieu va-t-il faire justice ? Eh bien, c'est écrit. Est-ce qu'on a besoin de justice, au fait ? Est-ce qu'on a besoin ? Ouais. C'est quelque chose. Vous avez vu, dès qu'il y a un viol, dès qu'il y a un meurtre, il faut qu'il paye. Bon, les gens le disent à leur façon, ils souffrent, mais est-ce qu'ils ont raison ? Moi, je pense que oui. Quand les injustes... D'ailleurs, regardez, je vais prendre deux textes, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas que ma réflexion. Regardez dans l'Apocalypse. C'est important, vous savez, mes frères et sœurs, parce qu'il faut être honnête. On a besoin de justice. Il n'y a pas un Jésus qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de... » Et la suite, c'est comment ? Car ils seront rassasiés. On a besoin de justice. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6... Mais c'est important ça parce que, vous voyez, les gens supraspirituels disent « Mais non, on n'a pas besoin de justice. » Non, on a besoin de justice. Regardez, Apocalypse chapitre 9, la colère, c'est après l'enlèvement ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, j'ai dit chapitre 6. Et oui, c'est ça. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Je fais vite parce que je voudrais partager certaines choses et je voudrais surtout qu'on prie. Parce que je suis persuadé qu'il y a des choses qui ont à voir avec la fin de notre vie, mais il y a des choses que Dieu veut faire aujourd'hui aussi. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des choses qu'on ne comprendra pas ici-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a des choses qu'on ne comprendra que plus tard. Jésus dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, ce soir, Dieu peut guérir quelqu'un ? Est-ce que c'est sa volonté ? Eh oui. Vous voyez, il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour ça que je fais un peu vite. Apocalypse 6, verset 9. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Oui, c'est une question. « Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance ?» Vous voyez, comme quoi, là, on n'est même plus dans la justice, on est dans la vengeance. Là, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous suivez le degré? Là, ça va loin. Verset 11. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Ça parle de tous ceux qui donneront leur cœur à Dieu après l'enlèvement de l'Église, pendant la grande tribulation. Il y aura une souffrance terrible, et c'est pour ça qu'il y aura également, à cause de l'injustice, une soif de vengeance. Cette question, elle est posée. Et vous savez, c'est bien l'honnêteté, parce qu'on doit être honnête. Croyez-moi, le Seigneur exercera sa justice et même sa vengeance. Et qui que l'on soit, je pense à un autre texte, vous voyez, par exemple, dans le psaume 13, pourtant c'est David, alors là on n'a que la marra du choix, mais il faut le lire, il faut le marquer, marquez-les ces textes, relisez-les peut-être demain dans votre culte personnel. Vous savez, des fois c'est dur la vie, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a la paix, le repos, mais il y a des fois, il y a des moments douloureux. Le psaume 13, c'est un psaume de David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui, une sœur priait tout à l'heure, qui disait, mais donne-moi l'intelligence du cœur. C'est un homme qui avait cette intelligence du cœur. Verset chapitre 13, verset 2. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacherais-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? » On sent cette douleur suite à de l'oppression, des conflits, de l'injustice. Et on pourrait prendre d'autres textes, le temps me manque, bien sûr. Mais le Seigneur, il sait. La preuve, par ses questions, par la question des croyants dans l'Apocalypse qui sont tués pendant la grande tribulation, il sait très bien qu'on a un problème, tous les croyants, tous les hommes en tous les cas, mais les chrétiens aussi, malgré le fait que Dieu soit puissant, malgré le fait qu'il soit juste, et que Dieu prenne son plaisir à ce qu'on reconnaisse qu'il soit juste, c'est pour ça que j'ai pris ce texte dans Jérémie, Dieu sait qu'on a un problème avec l'injustice. Il le sait. Il sait qu'on a besoin de réponses, d'ailleurs il nous a devancé, s'il a donné cette parabole, c'est parce qu'il sait très bien qu'on en avait absolument besoin, et comme je le dis, ce n'est pas que sur la prière, mais c'est sur la justice, donc il nous donne la réponse sous une forme de question. Alors, les réponses, on peut les donner sous forme de paroles simples. Et il y a des fois, vous n'avez peut-être pas remarqué, moi je le fais parce que j'enseigne, Dieu donne les réponses sous forme de questions. Pourquoi une question? Parce qu'une question, normalement, qu'est-ce qu'on est obligé? On est obligé de répondre. C'est la politesse. Oui ou non? Et la réponse, Jésus la formule sous une question. Vous êtes dans Luc au chapitre 18. Il promet de faire justice à ses élus, tous ceux qui ont mis leur foi en lui, parce que quand même il faut le dire, il y a des chrétiens qui ne mettent pas leur foi en Dieu, alors on peut se poser des questions si ce sont de véritables chrétiens. Après, le Seigneur dit, oui, il répète, parce que bon, ça fait du bien de réentendre parfois, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, je vous ferai justice, et il indique quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que Dieu veut faire ce soir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir ce soir? De sauver ce soir? Est-ce que si quelqu'un est perdu ce soir, il peut dire « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. » Est-ce que Dieu veut le sauver ce soir? Oui. Il y a des choses que Dieu va faire dans 3 mois, dans 1 an, en fonction de votre maturité, etc. Comme des enfants qui changent de classe au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'à la fin. Et en ce qui concerne la justice, c'est clair, Jésus fera justice quand il reviendra. Vous pouvez dire alléluia, ça me va. Non mais c'est important de savoir qu'il fera justice. On en a besoin. Alors peut-être qu'à cette époque, quand Jésus a raconté cette parabole, les chrétiens comme vous et moi ont dû dire mais il est là. Quand le Fils de l'homme viendra, peut-être que les apôtres autour d'eux ont dû se dire mais il est là le Seigneur. Est-ce que Jésus était là quand il a dit ça? Oui. Il était là, mais n'oubliez pas qu'il est d'abord venu comme sauveur. Eux, ils le voulaient comme libérateur et comme président et gouverneur ou roi, comme vous voudrez. Et c'est vrai que nous, les chrétiens, on doit exhorter les gens à faire des expériences aujourd'hui. Si vous regardez la littérature chrétienne, ici pas trop parce qu'on filtre, mais si vous allez dans des librairies chrétiennes, vous avez beaucoup de livres qui exhortent à tout avoir aujourd'hui. Soyez bénis aujourd'hui, donnez de l'argent, et vous serez bénis demain. Oui, bon, je caricature, mais ça existe, ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des choses que Dieu veut faire aujourd'hui. Si ce soir quelqu'un est perdu, même si c'est une exhortation, même si c'est moitié étude biblique, moitié exhortation, croyez-moi, allez à la croix ce soir, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le sang de Jésus, vous n'avez aucun refuge. Aucun. Aucun. Je me souviens de ce gars qui me dit « Oh, mais moi, monsieur, vous savez, moi, j'ai pas besoin de prier le matin quand je vais au boulot. J'ai ma BMW, c'est une grosse bagnole, c'est des meilleures bagnoles du marché. » Je dis « Écoutez, que vous ayez une BMW, une deux chevaux, moi, je pense que c'est bien de demander à Dieu qui vous protège. Quand on croit que notre sécurité physique dépend d'une BMW, je pense qu'on n'a pas tout compris. Tant mieux, ils ont pu acheter une BMW. » Mais, mes frères et sœurs, ne lisez pas de bouquins, à part ce qu'on vend ici, sans avoir lu la parole de Dieu. Croyez-moi. Donc, il faut comprendre que Dieu a tout un tableau, un ensemble, un calendrier, avec des choses qu'il fera aujourd'hui, parce que c'est écrit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. En ce qui concerne la justice, écoutez, soyons sérieux. Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra. S'il dit que les chrétiens doivent attendre la fin, puisqu'il dit « trouvera-t-il la foi ?» c'est-à-dire que Dieu n'aura pas encore fait justice, c'est évident. Bien sûr que nous sommes dans un monde injuste, le péché, qu'est-ce qui fait le péché? Il diminue ou il s'accroît? Il s'accroît. L'iniquité, elle diminue ou elle augmente? L'apostasie, qu'est-ce qu'elle fait dans les églises? Elle augmente, vous le savez. En plus, il faut que ces choses arrivent. Donc, le monde souffre, non seulement les gens, mais ne le lisez pas, marquez-le, dans Romains au chapitre 8, versets 15 à 25, il est même dit que la création souffre. Et elle aspire, elle attend l'affranchissement. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Vous vous rendez compte, la création entière aspire tellement tout le monde souffre. C'est vrai que tout le monde souffre. Oui ou non? C'est dans Romains au chapitre 8. La réponse à ce problème de l'injustice sera réglée lors du retour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il sait très bien quand est-ce qu'il doit faire les choses. Regardez dans l'Apocalypse. Là, ça concerne les perdus. C'est la deuxième résurrection, je n'ai pas le temps de tout expliquer. C'est la deuxième résurrection. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Croyez-moi, Dieu fera justice, mes frères et sœurs. Pour les chrétiens, ça sera avant. Mais là, c'est pour les perdus. Tous ceux qui auront voulu obtenir le salut par leurs œuvres. On n'est pas sauvés par les œuvres. Et il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'en faisant une BA, ils iront au ciel. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes actions. On n'est sauvé que par le sang de Jésus-Christ. Et regardez dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc. » Vous voyez, ça change du début, là, où les chrétiens sont devant l'autre trône, plein de lumière, d'arc-en-ciel et de bénédictions et de chants. Là, il n'y a pas grand-chose, je vous le dis. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent rejetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc ça, c'est la preuve qu'il y aura un jugement. Ça s'appelle d'ailleurs le jugement dernier. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jugement que Dieu aura à établir sur les hommes. D'un autre côté, après, il y a le jugement des chrétiens. Si vous regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 5, c'est le jugement des chrétiens. Alors le jugement des chrétiens, ça n'a rien à voir avec la condamnation. Parce que pour les gens, le jugement, qu'est-ce que vous entendez, vous, par jugement? Si vous deviez donner un mot, un synonyme. Mais le jugement, ce n'est pas forcément une condamnation. Quand il est dit de juger les prophéties, ça veut dire quoi? Pas les prophéties bibliques, hein. Les prophéties qui sont données dans le cadre d'un culte. Ça veut dire qu'il faut les évaluer pour voir si elles sont spirituelles. D'accord ? Et on ne les condamne pas. Le jugement dernier, c'est la condamnation. Le jugement des chrétiens, c'est le fait de rendre des comptes. Il y a 7 mots en grec qui expliquent pour le mot jugement. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Alors, on pourrait lire le verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, les justes seront jugés, passeront devant Dieu pour rendre des comptes, les injustes seront jugés selon leurs œuvres, mais les justes seront aussi récompensés. Alléluia. Il n'y en a qu'un qui a dit Amen. On recommence, hein? Allez, hop. Les justes seront récompensés. Amen. C'est important. Jésus l'enseigne plusieurs fois. Regardez, par exemple, dans le sermon sur la montagne. C'est important, les récompenses. Moi, je trouve, quand même. Et moi, j'y tiens, quand même, à mes récompenses. Non ? Ce n'est pas important pour vous ? Regardez, Matthieu, chapitre 5. Ce fameux sermon où Jésus parle, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, quand ils seront rassasiés. Croyez-moi, vous serez rassasiés. Vous en aurez pour votre compte, croyez-moi. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. C'est important ces textes. Je les lis vite parce que je veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ait un temps pour prier pour si quelqu'un veut donner son cœur au Seigneur ou si quelqu'un a besoin d'une grâce dans son corps. Matthieu chapitre 5, verset 11. Et ça, je vous rappelle que c'est le début de l'évangile. Un chrétien qui lit l'évangile, qui donne son cœur au Seigneur, au bout de combien de temps il devrait avoir lu ça ? Allez, soyons honnêtes. Quelqu'un qui découvre l'évangile, qu'est-ce qu'il fait ? Quelqu'un qui donne son corps au Seigneur, est-ce qu'il se met à lire la Bible ? Ben oui. Donc, Matthieu 5, il faut combien de temps pour arriver à lire Matthieu 5 ? 3 ans ? 5 ans ? Non, s'il démarre au début de Matthieu. Non, même pas, il faut une heure. Franchement. Et il y a des chrétiens qui ont 10 ans de conversion qui calent par rapport à ce qu'on va lire. C'est pour vous dire comment ils lisent la Bible. Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous, et vous lisez, vous avez la même Bible que moi ? Bon, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Amen. Quand je suis arrivé à Sainte-Agne, bon, ça faisait 15 ans que j'étais pasteur, et une des premières réunions, c'était un mardi soir justement, un mardi soir, je prêchais, je ne sais plus sur quoi. Et il y avait une dame qui était là, au niveau d'Antoine à peu près. Et chaque fois que je prêchais, elle était là. Elle secouait la tête. Elle était là. Franchement, ça ne me faisait rien. Et elle a attendu que tout le monde soit parti pour me parler. Et à la fin, elle me dit, je peux vous parler, j'ai quelque chose à vous dire. Ben oui, allez-y. Je me demande, qu'est-ce que vous faites sur une estrade, de toute façon. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je fais de mon mieux, franchement. Eh bien, étonnant, ça, c'est pas bien. Eh bien, priez pour moi, que je fasse des progrès. Et pendant un quart d'heure, elle n'a pas arrêté de m'insulter. Poliment, des fois c'était juste, mais... Et au bout d'un moment, moi, par politesse, j'ai dit un quart d'heure, ça faisait 5-6 minutes. Et elle a vu que mon visage avait une certaine expression. Elle me dit, à quoi vous pensez ? J'ai dit, vous voulez que je vous le dise ? Eh bien, on va le lire à ce que je pense. Recevrez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Parce que votre récompense sera grande dans les yeux. Et j'ai envie de vous dire, continuez. Elle m'a regardé, vous pensez ça ? J'ai dit oui, je pensais ça. Ça m'est égal. Après que qu'on m'exhorte à faire des progrès dans la prédication, c'est bien. Mais qu'on se moque de moi, ça m'est égal. Je dis ça parce que cette femme, elle était là dimanche, elle était de passage. Elle s'est convertie. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que il faut l'accepter, l'injustice. Si on n'accepte pas l'injustice, on n'ira pas bien loin, mes frères et sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on n'accepte pas la justice, on ira loin. Mais ça va beaucoup plus loin. Là, parce qu'on a besoin de récompense, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Chaque fois qu'on s'est moqué de vous, parce que vous étiez chrétien, il y a quelqu'un dans le ciel, je ne sais pas comment ça se passe, je ne veux pas savoir, ça doit être très bien fait, c'est écrit. Et vous en aurez une récompense, parce que c'est à cause du Seigneur qu'on se moque de vous. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, écoutez-moi, ça m'est égal, mais c'est la vérité. Chaque fois qu'on s'est moqué de vous, on a dit, et peut-être que vous ne le savez pas, c'est écrit. Ça va plus loin, ça va plus loin. C'est important parce qu'il ne faut pas dire aux gens, acceptez l'injustice, allez, acceptez l'injustice, c'est comme ça. Non, je pense qu'on est des êtres intelligents et on a besoin d'explications. Donc, dans 1 Pierre, regardez bien. Dans 1 Pierre, le Seigneur va encore un petit peu plus loin. C'est important ça, c'est important mes frères et sœurs. Si on veut aller jusqu'au bout, si on veut aller jusqu'au bout. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Regardez ce que Jésus dit. Ça vaut la peine quand même de le méditer ce texte et de vous y arrêter. Moi j'ai mis du temps, il m'a fallu 5 ans et demi d'épreuves pour comprendre tout ça. 1 Pierre chapitre, j'aimerais vous épargner les épreuves, que vous l'acceptiez tout simplement. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. C'est une grâce, donc une bénédiction. Vous avez la même Bible que moi ? C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? C'est sûr que si je roule, en rentrant à la maison, si je roule à 160 sur l'autoroute ou sur la rocade et que je prenne un manche et qu'on m'enlève le permis, est-ce que c'est normal ? Oui, ce n'est pas une souffrance injuste, je l'ai bien cherché. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Regardez bien le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça fait partie de notre vocation. Ce sont des choses à noter, ça. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors, comment il faisait ? Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Au fait, dites-moi, est-ce que Jésus aurait pu s'octroyer l'autorité d'exercer la justice à ce moment-là ? Ben oui, après tout. Et vous avez vu, il est venu en tant que sauveur, il s'appelait le Fils de l'homme avec des majuscules, parce qu'il est venu comme un homme. Mais il ne s'est pas octroyé le fait de juger. Il aurait pu. Quand Pierre lui a dit, mais tu te rends compte, il faut qu'on te défende. Jésus a dit, si je voulais, je pourrais invoquer mon Père qui me donnerait 12 légions d'anges. Ça commence à faire 72 000 anges. Quand on voit comment certains sont costauds, laissez-moi vous dire que ça aurait fait du grabuge dans les rues de Jérusalem ce jour-là. Donc le Seigneur Jésus ne disait rien. Il s'en remettait à celui qui juge. Et si vous voulez, écoutez-moi bien, frère, parce que s'il y en a qui perdent la foi, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à ces choses. C'est pour ça que Jésus pose la question, en me donnant une réponse, trouverai-je la foi ? Vous avez compris ? Parce qu'il y a des gens qui la perdent la foi, parce qu'ils souffrent que Dieu ne manifeste pas sa justice aujourd'hui. Seigneur, tu vois, tu fais justice, tu es puissant, tu es bon, alors fais-moi justice. Oui, cette attitude qui est très irrévérencieuse et qui est peut-être qui doit s'exprimer, parce que quand on souffre, on a le droit de dire des bêtises, mais ça vaut la peine quand on souffre aussi de se mettre à genoux et de demander à Dieu de l'aide et du secours. Et il le fait. Moi, il m'a fallu. Je vous dis, franchement, ces études que je fais là, que je refais, ça a été 5 années et demie d'épreuves. Et Dieu m'a envoyé au bout du monde, dans un autre pays, pour être tout seul, pour que j'apprenne ces choses. Mais je ne les ai pas appris en méditant, je les ai appris en pleurant. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Vous savez, quand toutes choses concourent bien, je le savais à l'époque, mais là je le comprends aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. Et quand Dieu dit que c'est une grâce, c'est une grâce. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Vous avez souffert injustement, j'ai perdu mon boulot, j'ai refusé de coucher avec le patron, une jeune fille un jour, j'ai refusé de coucher avec le patron, et il m'a viré. Ils ont donné le poste à une fille, bien sûr, qui a accepté ses avances. C'est injuste ! Moi, je suis chrétienne, je suis droite. Oui. C'est sûr que c'est dur, mais Dieu dit que c'est une grâce. C'est sûr que sur le moment, ça a besoin d'explications. On est appelé à cela. Jésus a souffert. Vous pensez que franchement, vous avez vu ses mains, les mains de Jésus. Moi, je pense souvent à ses mains, parce qu'on le voit, qu'il bénit les enfants, qu'il guérit un malade, il touche un mort, le mort ressuscite. Enfin, moi, je trouve que ses mains, il les a bien utilisées. Non ? Et vous avez vu ce qu'on en a fait de ses mains ? On les a crucifiées. C'était injuste. Le procès de Jésus, bon, c'est pas le moment d'en parler, mais le procès de Jésus, c'est une injustice, mais non, mais de fou. C'est interdit de juger quelqu'un la nuit. Et on l'a jugé pas dans la nuit. Si on... Il n'y a que des injustices. Est-ce que Jésus a dit, non, vous n'avez pas le droit de me juger la nuit, il faut juger à partir du matin. Est-ce que Jésus le savait très bien? Le procès de Jésus, est-ce qu'il était juste? Non. Et qui sommes-nous pour passer avant ces affaires-là? Mes frères et sœurs, ne soyez pas étonnés lorsque vous souffrez injustement. Lorsqu'on vous fait de la peine, lorsqu'on se moque de vous, c'est normal. On s'est moqué de Jésus, on se moquera de vous. Moi, je me souviens, quand je me suis converti un mardi soir. Je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas. Je me suis converti un mardi soir. Vraiment, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vraiment. J'ai, pour ainsi dire, tout réglé le soir de ma conversion. Tout. À part le tabac ou deux ou trois petits trucs que j'ai mis deux ou trois mois à régler. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la maison. J'avais jamais ouvert la Bible. Jamais j'avais ouvert la Bible. Et j'ai pris Matthieu. Et le soir, le premier soir de ma conversion, j'étais arrivé à Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. » Et je me suis dit, ça ne devrait pas tarder. Je travaillais dans une boîte de nuit et j'avais une vie de patachon, etc. Le dimanche, on avait une réunion de travail avec tout le personnel et la patronne et le patron. Tout d'un coup, on était en train de travailler pour les programmes, etc. Vous savez comment ça marche dans les boîtes. Et, enfin, j'espère que pas trop, dans les boîtes, pas les boîtes de nuit, dans les boîtes. Le téléphone sonne. La patronne me dit, Gérard, si c'est pour moi, tu dis que je suis pas là. Moi, je prends le téléphone et je peux vous dire que le mensonge, c'était terminé. Je prends le téléphone. Allô, oui, bonjour, monsieur. Elle est là, je vous la passe. Ça a jeté un froid. Elle se lève, oui, bon, elle fait son truc. Elle raccroche. Elle s'assoit. Elle me regarde. Elle me dit, mais ça va pas? Je dis, ça va pas quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? La prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je te vire. Je dis, vous pouvez me virer, mais moi, je ne m'aime pas. Je suis chrétien. Alors, je ne vous dis pas l'ambiance dans le... Moi aussi, je suis chrétienne. Je dis, pas pareil. Tout le monde, bien sûr, en cœur, s'est moqué de moi. 6 mois après, la moitié du personnel s'était converti. Et j'avais compris le premier soir de ma conversion, parce que j'avais lu la Bible, enfin j'avais commencé à lire la Bible, que quand on est chrétien, si on s'est moqué de Jésus, c'est évident qu'on se moquera de nous. Et je l'ai compris, je l'ai accepté, je vous dis, j'en ai pas fait une histoire, moi j'ai vu des gens, on se moque de moi, si c'est ça, je vais plus à l'église, moi j'ai pas envie qu'on se moque de moi au boulot. Ben oui, c'est pour ça que Jésus a dit, faites des disciples et baptisez-les. Si vous voulez pas vous convertir, mais ne vous convertissez pas. Parce que je peux vous dire que pour être chrétien, pour moi, il faut du courage. Pour rester fidèle, il faut du courage. Des fois, on dit, et les gens dans l'ignorance se disent, ouais, les chrétiens, ce sont des faibles. Eh bien, moi, je vous dis, après 35 ans de conversion, que pour rester chrétien, il faut être courageux. Vous me suivez? Et les chrétiens, justement, les faibles, ils ne restent pas chrétiens s'ils ne demandent pas la grâce du Seigneur. Pour rester chrétien, il faut du courage. Et si vous ne voulez pas vous convertir, ben, vous convertissez pas. Mais moi, je peux vous dire que si vous voulez vous convertir et si vous voulez être debout et garder la foi, quand Jésus reviendra, il nous faudra accepter l'injustice. Oui, il faut l'accepter. L'injustice, ça doit devenir une bénédiction. Et ça sera, dans l'éternité, une bénédiction. Oui, Jésus le dit. Regardez dans Jacques, juste avant. Regardez dans Jacques, il en parle. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les problèmes, l'affliction. Le premier chapitre de Jacques, c'est un problème sur la souffrance, l'injustice, etc. Et au chapitre 1er, au verset 12, il y a une indication par rapport à l'épreuve. L'épreuve, la souffrance, etc. Regardez, Jacques 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Donc la tentation n'est pas un péché. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail de l'Angola où une sœur était complètement désemparée parce qu'elle interprète la tentation comme un péché. Si c'est un péché, je peux vous dire que Dieu ne dirait pas « heureux l'homme qui supporte le péché ». La tentation, c'est une épreuve. D'ailleurs, la suite le prouve, car après avoir été, qu'est-ce qu'il est dit ? Éprouvé. Donc c'est bien la preuve que la tentation, c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Moi, je ne sais pas ce que c'est cette couronne. Est-ce que quelqu'un sait au fait ce que c'est cette couronne de vie? Moi, je ne sais rien. Il n'y a rien dans la Bible qui explique ce qu'est cette couronne de vie. Écoutez-moi. si vous acceptez les épreuves, si vous supportez l'épreuve, il y aura une bénédiction dans l'éternité. Et je pense que même si on ne sait pas trop ce qu'est cette couronne de vie, ça récompensera largement, ça comblera largement l'adversité qu'on aura traversée. Vous le croyez que Dieu est assez bon pour compenser humblement? Non, vous ne le croyez pas? Moi, je peux vous dire que Dieu est capable de vous combler bien plus que ce que vous n'avez été éprouvé. Dieu ne se moque pas. Il y a des gens qui sont tout le temps en vrac. Tout le temps, ils sont en vrac. Et je ne comprends pas. Alors, au début, ça peut arriver quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Allez, quelques jours. Ça peut arriver quelques jours? Un peu plus? Bon, ça peut arriver. Soyons honnêtes, lisez le livre de Job et vous verrez combien cet homme répand son cœur devant Dieu. Même c'est Anne qui dit « Mais c'est la souffrance qui m'a fait parler comme ça ». Est-ce que la souffrance peut nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas aimé dire? Oui, ne jouons pas les traits très spirituels, soyons honnêtes. Mais à un moment donné, quand même, ça doit s'arrêter, c'est pour ça que c'est écrit. Dieu ne se moque pas de nous. Mes frères et sœurs, nous sommes ses enfants. Vous entendez? Si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, je ne dis pas si vous êtes catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, ça ne veut rien dire. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, vous êtes son élu, vous êtes son enfant. Dieu est votre Père et Dieu ne se moque pas de ses enfants. Dieu, il s'occupe de ses enfants. Tout est enregistré, tout est compté, tout est écrit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez téléphoné à une sœur qui est malade. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez téléphoné. Est-ce que ça vous arrive de téléphoner à quelqu'un qui est malade? D'aller le visiter. Pourquoi vous le faites? Parce que vous l'aimez, parce que vous aimez le Seigneur. Tout ça, c'est enregistré. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais monsieur Gou, parce qu'il y a des gens qui me disent à la sortie des fois, mais monsieur Gou, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites dans les prédications? Mais ce que je vous dis, c'est écrit. Regardez dans Matthieu, chapitre 10. Mais ne commencez pas à dire, mais comment ça se fait? Si je vous le dis, c'est que c'est écrit. Matthieu, chapitre 10. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Et en plus, ça va beaucoup plus loin qu'un coup de fil ou une visite. Parce qu'une visite, déjà, c'est beaucoup une visite à quelqu'un. Eh oui, combien de temps il faut pour faire une visite? Il faut prendre la voiture, il faut prendre le métro, il faut faire peut-être préparer un petit gâteau, etc. Une visite, ça peut prendre une après-midi, oui. Donc, c'est déjà quelque chose, une visite. Ou même un coup de fil, des fois, ça peut prendre un quart d'heure. Matthieu, chapitre 10. Regardez, mais c'est important, mes frères et sœurs. Alors, Matthieu, chapitre 10, c'est quel verset? C'est le dernier, verset 42. Vous savez, on a besoin de récompense. On a besoin de consolation. On a besoin de tendresse. Eh ouais, on n'est pas des robots. Matthieu 10, 42. Quiconque, c'est qui? C'est n'importe qui. Donnera seulement, ouais, c'est pas beaucoup, un verre d'eau froide. À l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau froide, bibliquement parlant, c'est la plus petite chose que l'on puisse donner. À moins un demi-verre, d'accord. Mais je veux dire, la plus petite chose, c'est un verre. Vous êtes d'accord, un verre d'eau froide, c'est petit. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, on a besoin. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, vous savez, c'est arrivé, ces gens-là ne sont plus là. Il y a des gens qui m'ont dit, monsieur Gou, vous ne devriez jamais faire allusion aux récompenses, on n'a pas besoin de récompenses, on aime le Seigneur inconditionnellement. Je dis, non, ce n'est pas vrai. On aime Dieu inconditionnellement, oui, mais je pense qu'on a besoin de savoir que tout ce que l'on fait, c'est important aux yeux du Seigneur. C'est écrit, c'est pour moi qui le dis, c'est écrit. Ça prouve quoi? Eh bien, ça prouve plein de choses. Que Dieu enregistre, que tout est noté, et que Dieu ne nous abandonne pas aux caprices de ceux qui sont plus puissants que nous. Parce que même si on est chrétien, il n'empêche qu'il y a des gens à côté de nous, au-dessus de nous, des patrons, des pasteurs, des gens qui nous entourent, des ennemis qui sont plus forts que nous. Oui ou non? Eh oui. Et vous croyez que Dieu, il nous plante là, excusez-moi? Tout ça qui est écrit par rapport aux récompenses, par rapport à la consolation, par rapport à la justice, c'est pour que nous comprenions bien que Dieu ne peut pas nous abandonner. Amen. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il sait ce qu'il fait. Et un jour, c'est lui qui sera le juge. Moi, ça me rassure, moi. Pas mon juge. Quand on passera devant Dieu, le Seigneur sera l'avocat des élus. Mais il sera le juge des autres. C'est écrit. C'est écrit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, Dieu ne sera jamais le juge. Oui, c'est ça, oui. Vous savez, les gens, ils ne lisent pas la Bible. Alors, c'est pour ça que les gens, ils sont en vrac. Acte 17. Regardez. versets 30 et 31. Ce sont des versets qui nous montrent qu'un jour, le ministre de la Justice, pas celui qu'on a, le nouveau ou l'ancien, c'est pas le top, ça. Mais il y en aura un ministre de la Justice, un jury, un juge, dans la même personne du Seigneur Jésus-Christ. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, bon, ça c'est bien, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Voyez, il y a des choses aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont dans le temps. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon... Il ne vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui est écrit? Il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, qui c'est qui jugera le monde? C'est notre Seigneur Jésus. Justice sera faite. Toute la justice sera faite, dans tous les domaines, mes frères. Ce jour-là, il fera justice à ses élus. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent la foi, parce qu'ils voudraient que Dieu les venge maintenant. Seigneur, tu dois me venger, tu vois, ce gars il m'a fait souffrir, occupe-toi de lui, rends-lui la monnaie. Moi j'ai entendu ça, j'ai entendu une chrétienne qui a dit, il y a une expression chez les pieds noirs, qui dit, comment c'est ça, qui a dit, Seigneur donne-lui un petit de la chienne, un chien de la chienne. Voilà, réserve-lui un chien de la sienne. Moi, je crois que ce n'est pas à nous de le demander. Nous, on doit dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Hein. Que ta volonté soit faite. Faites-lui confiance. Il sait, s'il a donné cette parabole, soyons intelligents. Il faut être intelligent. Ce qu'on a lu, c'est pour ça que j'ai lu quand même pas mal de versets, mais tout ce qu'on a lu nous montre que Dieu comprend, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à attendre, qu'on a du mal à accepter. C'est pour ça qu'il y a cette parabole. Mais faisons confiance. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Est-ce qu'on peut tout comprendre? En tous les cas, si on ne peut pas tout comprendre, on peut rester fidèle. Alléluia. Vous entendez, mes frères et sœurs? Vous ne pouvez pas tout comprendre, mais on peut rester fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Et n'essayez pas d'aider Dieu. N'essayez pas de l'aider. Mais des fois, on a presque envie de l'aider, même dans les conseils, vous voyez? Seigneur, tu devrais faire comme ça, tu vois. Moi, si j'étais à ta place, écoutez-moi, n'essayez pas d'aider Dieu. On va chanter ce chœur pour terminer. Il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour, je me repose. Le mystère de toute chose me sera révélé là-haut. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Vous le croyez? Vous voulez chanter ce chœur? On va chanter ce petit chœur. C'est quel numéro? 114. On va se lever, on va chanter ce cœur. Il y a des choses que Dieu fera à la fin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord pour que Dieu ne le fasse qu'à la fin? Bon. Mais il y a des choses que Dieu veut faire aujourd'hui. Et vous voyez, il ne faut pas mélanger les choses. Ce soir, il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner son cœur au Seigneur ce soir? Ben oui. Est-ce que quelqu'un est malade? Oui. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin, compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, d'une victoire? Alors on va d'abord chanter ce chœur. On va chanter ce chœur. Il sait si bien ce qu'il me faut. Si vous voulez donner votre cœur au Seigneur, n'attendez pas. Parce que si vous attendez, vous allez faire partie du groupe qui se retrouve dans l'Apocalypse du chapitre 20 et ça va mal se passer pour vous. Si vous donnez votre cœur à Jésus, vous aurez la joie d'avoir Jésus pour avocat. Là, ça se passera bien. C'est comme ça que ça se passera. On chante, mes frères et sœurs. Il sait si bien ce qu'il me faut. Il sait si bien ce qu'il me faut, sur son amour je me repose. Le mystère de toute chose me sera révélé là-haut. Il sait si bien ce qu'il me faut, sur son amour je me repose. Le mystère de toute chose me sera révélée là-haut. Amen.